Les cours du Collège de France, Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie.
Bonjour, nous on va commencer le cinquième cours qui va traiter de la formulation et la compatibilité des matériaux d'électrode positifs vis-à-vis des électrolytes. Alors, pour le moment, ce qu'on a vu, on a vu finalement la batterie tout solide avec ses différents aspects. On a couvert pendant deux ou trois leçons l'aspect inorganique, l'aspect synthèse des matériaux, des conducteurs ioniques. Ensuite, on a vu très longuement les problèmes qui se développent aux interfaces, notamment électrodes négatives avec les dendrites de lithium et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va s'intéresser finalement à l'interface, à la cathode, c'est-à-dire aux matériaux actifs de ces batteries tout solides, c'est-à-dire celles qui vont donner l'énergie. Et on terminera, comme vous verrez ici, par finalement l'assemblage des batteries, les problèmes de pression nécessaires pour obtenir de tels systèmes. Alors si on regarde ce qui se passe au niveau de la cathode, je dirais que la cathode, qu'on peut voir ici, mais c'est un système complexe avec de nombreux constituants. Vous allez avoir un liant, vous allez avoir un matériau actif et un conducteur électronique pour tenter d'assurer la percolation entre les différentes particules. Donc, par conséquent, notre jeu aujourd'hui va être finalement de répondre aux questions. Quel matériau actif dois-je choisir pour avoir des performances optimales? Quel électrolyte, sulfure, argérodite, halogénure? Et quel carbone? Faut-il du carbone ou n'en faut-il pas? Et tout cela, dans quelle proportion? Et même, faudra-t-il un liant? Donc voilà les questions qu'on va essayer de répondre. Alors, au niveau des matériaux, il y a plusieurs classes de matériaux qui sont, très bien connues dans le domaine des batteries. Il y a les fameuses phases lithium, nickel, manganèse, cobalt, oxyde, ce qu'on appellera NMC dans ce cours, qui sont importantes. Il y a bien sûr le phosphate de fer et les chalcogénures que j'ai mis en bas. Et j'ai mis ces différentes couleurs pour montrer qu'ils ont toute une activité redox différente. On va passer des matériaux qui sont, très résistants à l'oxydation, comme les NMC, à ceux qui sont plus faibles, comme les chalcogénures. Et on verra également deux phases extrêmes, qui sont le lithium titanate, des spinels, en raison de cette propriété particulière en termes de volume, mais également la phase lithium-nickel-1,5-Mn0,5-O4 en raison de son potentiel élevé aux alentours de 4,8 volts. Alors ça, si vous voulez, c'est les matériaux qu'on va utiliser. Ensuite, au niveau des électrolytes, on a déjà vu ce graphe plusieurs fois qui montre tout simplement que les électrolytes finalement inorganiques ne sont guère, sont même moins stables que les électrolytes organiques, car vous voyez ici les domaines au potentiel de stabilité. Ça va être finalement engendrer des difficultés considérables, car ça va créer des interfaces, et ces interfaces, il va falloir les maîtriser. Interfaces que l'on voit ici, dans le cas des argérodites, où à des potentiels supérieurs à 2,5 volts, je vais avoir une décomposition des matériaux. Bon, heureusement, la nature va jouer bien avec nous et va faire en sorte que les interfaces vont pouvoir être, coopératives. Ensuite, si je regarde le cas des halogénures, on va certainement à plus haut potentiel. Et vous avez qu'en changeant les compositions, on peut avoir des domaines d'oxydation aux environs de 3, 3,5, 4 volts. Mais là aussi, on va être relativement limité. D'où c'est ce genre de problème qu'on va regarder. Et enfin, un des problèmes, peut-être le plus important, est lié à ces fameux matériaux, ces fameux NMC, qu'on utilise dans les batteries lithium-ion aujourd'hui, dont on verra finalement là aussi les avantages et les inconvénients, dû au fait que vous voyez ici, lorsque je vais vouloir sortir plus de lithium, c'est-à-dire qu'en ce compte-là, je vais tout simplement engendrer des transitions de phase et des changements de volume. Et ça, ça va être de nouveau très important dans le cas de la batterie tout solide. Beaucoup plus important que dans le cas directement des électrolytes liquides, où les électrons liquides, vous avez ce changement de volume, mais ce changement de volume est finalement, surmonté par la pression hydrostatique ou l'électrolyte qui va directement remplir les vides. Par contre, si vous regardez ça au niveau du solide, vous apercevez que lorsque le solide va respirer, dans ce cas, vous allez avoir une décohésion entre le matériau d'électrode positive et la matière et l'électrolyte solide. D'où ça va créer des fissures, des pores à l'intérieur de votre électrode, de façon que vous allez avoir des particules qui vont devenir déconnectées. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir résoudre dans l'assemblage de toutes les batteries tout solides dans le cours. Alors, finalement, la difficulté est indiquée ici. Vous voyez très bien ici cette contraction directement lors des changements de phase. Tout cela va entraîner des pertes de contact. Ensuite, ça va entraîner, en cas d'électrolyte, s'il réagit, eh bien, des réactions de dégradation, d'où des pertes de résistance et, là aussi, des pertes de capacité et de performance de l'accumulateur. Donc, par conséquent, aujourd'hui, eh bien, on va essayer tout simplement de voir comment on peut, je veux dire, résoudre tous ces problèmes. Alors, les problèmes liés à la percolation électronique et la percolation ionique, les problèmes liés à la stabilité chimique, électrochimique interface, et les questions de chimio-mécanique pour finalement s'assurer que tout fonctionne correctement. Alors, on va tout d'abord prendre le cas de l'électrode positive. Alors, dans le cas de l'électrode positive, la question qui se pose, faut-il un carbone à ces composites et que ou quel va être le rôle du carbone? Eh bien, si on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire que si maintenant eh bien, je regarde un électrolyte, et vous voyez ici, si je mets directement, regarde en fonction de la température, je m'aperçois que dès 2,4 volts avec de l'argile rhodite, eh bien, j'ai des réactions d'oxydation qui sont exacerbées. Okay. Cela, on le voit aussi très bien lorsqu'on regarde le potentiel en fonction de la capacité, lorsqu'on charge, je veux dire, une batterie tout solide. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, au fur et à mesure que j'augmente la quantité de carbone, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, j'ai une pente qui augmente. Ça veut dire que j'ai une perte de capacité irréversible dans ce domaine. Tout ça, c'est les difficultés que l'on rencontre avec le rôle du carbone. Alors, est-ce qu'on peut connaître ce qui va se passer, anticiper le rôle du carbone, qui va dépendre de sa nature, comme on peut voir ici, également de son taux, et on s'aperçoit ici, sur ce graphe, dans lequel on trace l'irréversibilité en fonction, finalement, de la surface d'échange échangeable, bien on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la surface et la nature du carbone va changer, eh bien, on va augmenter l'irréversibilité. Alors, on augmente cette irréversibilité, mais la question, c'est quelle va être l'implication sur les propriétés ioniques, voire les propriétés électroniques de ces composites. Et pour faire cela, eh bien, on peut, grâce à des mesures 2 électrodes, voire 3 électrodes, déterminer quelles vont être les conductivités ioniques et les conductivités électroniques, ainsi que leur évolution en fonction des taux de carbone, des différentes natures de carbone. Et vous voyez ici que la conductivité ionique eh bien, va augmenter à partir de 1 à 2% de carbone. Elle va augmenter pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, on va tout simplement disperser le système et on va perdre la percolation entre les différentes particules. Par contre, si on regarde maintenant au niveau de la conductivité électrique, eh bien, on s'aperçoit que celle-ci, à partir de 2%, eh bien, atteint, je dirais, des valeurs relativement optimales. Donc ça veut dire qu'en ce système, eh bien, si on utilise du carbone, si on veut vraiment l'utiliser pour des imitations électriques, eh bien, dans ce compte, il faudra tout simplement utiliser des taux qui seront inférieurs à 2%. Et ça, si vous voulez, ça va être une des problématiques dans toutes ces composites, de voir ou de comprendre ce rôle du carbone. Alors, par exemple, eh bien, vous voyez ici différents systèmes, et tout cela, ces taux vont, je dirais, changer en fonction du système, et dans certains cas, bien sûr, l'effet sera moindre. Vous avez ici le cas des composites contenant de l'argile rhodite. Vous voyez que là aussi, la différence entre le cyclage qui est, je dirais, constant, alors que lorsque vous mettez du carbone, vous apercevez que vous avez une décroissance. Si je prends le cas des sulfures qu'on a vu au départ, les phases lithium-3, PS4, eh bien là aussi, vous voyez directement la grande différence entre la courbe noire, pas de carbone, et la courbe bleue avec du carbone. Par contre, maintenant, si je prends des électrolytes qui ont des stabilités relativement plus importantes, c'est-à-dire si je prends les halogénures, eh bien dans le cas des halogénures, eh bien vous apercevez que dans ce cas, eh bien vous voyez que je peux avoir du carbone et je n'aperçois aucun effet négatif avec cette présence de carbone. Tout ça veut dire que ce carbone ou ce VGCF, c'est du carbone fibreux, peut être utilisé dans le cas des halogénures à l'instar des sulfures. Et ça, eh bien on peut le voir très bien si on regarde une fois de plus des courbes d'oxydation en demi-cellules. En effet, vous voyez ici, lorsque je trace le potentiel en fonction de la capacité, avec des composites qui contiennent de l'argile rhodite ou de l'argile rhodite ici, ou des composites qui contiennent des halogénures, vous voyez que dans le cas de l'argile rhodite, eh bien à 2,5 volts, toute cette capacité est tout simplement associée à la décomposition qui a lieu à l'interface, c'est-à-dire la réactivité chimique et électrochimique entre l'électrolyte et le matériau NMC. Alors que dans le cas finalement de l'halogénure, eh bien, vous voyez que dans ce cas, la capacité, je dirais, associée à cette dégradation est relativement moindre. Et tout cela, eh bien, ça peut se résumer sur ce transparent ou sur ce graphe, dans lequel, vous voyez ici, les différentes phases qui se forment, avec, dans le cas de l'argirodite, vous avez simplement la formation de sulfure, de deux espèces phosphorées, P2SX, alors que dans le cas des argirodites, et de, notamment zirconium, on peut aller à des hauts potentiels avec, je dirais, des interfaces qui sont relativement stables. Alors la question, c'est finalement, comment exploiter bien, cet avantage particulier des halogénures par rapport aux argirodites. Eh bien, on va le montrer sur un exemple relativement simple. C'est un exemple qui est un des matériaux les plus utilisés actuellement dans les batteries lithium-ion, qui est la phase lithium-phosphate. Et cette phase, eh bien, si vous regardez la littérature, vous allez trouver très peu de papiers où on voit l'intégration de ce matériau en batterie tout solide. La bonne simple raison, c'est que ce matériau est inisolant, et pour l'utiliser, il faut mettre simplement une couche de carbone à sa surface. D'où si on met une couche de carbone à sa surface, ça veut dire qu'on va générer dans ce cas eh bien, des réactions de dégradation. D'où ce qu'ont fait les chercheurs jusqu'à maintenant, ils ont utilisé des systèmes, je dirais, hybrides, dont on reviendra dans le dernier cours, dans lequel on va, dans ce cas, utiliser soit un électrolyte liquide, soit un ionogel, soit du POO, pour finalement empêcher cette dégradation ou ce contact direct avec, je dirais, l'électrolyte solide. Et dans ce cas, par contre, si maintenant, au lieu d'utiliser l'argirodite, eh bien, j'utilise les halogénures, notamment la phase lithium-2 ZrCl6, eh bien, ce matériau étant plus résistant à l'oxydation, eh bien, va entraîner des réactions interfaciales beaucoup moindres. Il y aura également, ces halogénures ont une meilleure déformabilité, d'où vont permettre une meilleure densité de la composite et également plus de contact et moins de pores. Et en effet, vous voyez ici, à la même pression, eh bien, dans la densité qui augmente de 85 à 95% lorsque l'on va d'une composite à base d'argirodite par rapport à une composite à base d'halogénure. Alors cela eh bien, va bien sûr entraîner des conséquences sur les propriétés électrochimiques. Vous voyez ici les deux matériaux, l'un avec l'argirodite couvant vert et l'autre avec les halogénures. Vous voyez tout simplement la différence, je dirais, drastique avec une efficacité coulombique de 90% dans un cas comparé à 40% dans l'autre cas. Et tout cela, bien sûr, se traduit sur les propriétés en performance au niveau de la capacité en fonction en cyclage avec la puissance, comme indiqué ici, vous pouvez aller jusqu'à 2C. Vous avez, dans ce cas, une bonne, je dirais, capacité et une bonne capacité rétention à 1C sur aux alentours de, je dirais, 100 ou 200 ou 1000 cycles. Donc voilà, si vous voulez, un avantage de jouer avec la nature, la stabilité de l'électrolyte, selon les matériaux d'électrode utilisés. Alors, je vous ai mentionné ici un matériau qui avait une problématique au niveau du carbone, puisqu'il fallait un enrobage de carbone. Et maintenant, on va avoir un matériau dans lequel qui est plus exigeant vis-à-vis de ces réactions de dégradation, puisqu'on va prendre un matériau qui est un matériau qui va travailler à 5 volts. Et ici, vous avez une fois de plus les potentiels de stabilité des différents électrolytes. Argirodite, en rouge, vous retrouvez les 2,5 ici. Et vous avez les halogénures, vous retrouvez ici dans les potentiels aux alentours de 3,5. Et si maintenant, je prends les NMC, vous voyez qu'ils tombent relativement correctement avec les halogénures. Par contre, si je prends le spinel lithium nickel 05 MnN5O4, qui a un potentiel redox de 4,5 volts, vous voyez que je suis au-dessus, dans ce cas, des halogénures. Et effectivement, si maintenant, eh bien, je veux tout simplement faire une batterie à base eh bien, de ces halogénures et de cette phase lithium, nickel, manganèse qui est à 5 volts, vous apercevez ici que vous regardez tout simplement les résultats d'impédance en circuit ouvert de cette batterie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de courant du tout. Et vous voyez que dans le cas eh bien, des halogénures, la courbe en bleu, eh bien, j'ai, je dirais, une diffusion de type restreinte avec Warburg et ensuite directement le comportement de supercap. Par contre, maintenant, dans le cas de l'argirodite, en rouge, vous apercevez que dès que je fais le mélange, eh bien, j'ai une boucle qui apparaît qui indique que le début des réactions de dégradation. Et tout cela, c'est intéressant car ça se voit très bien d'ailleurs sur cette photo, cette cross-section, où vous apercevez qu'autour de la particule du spinel, eh bien, j'ai des cavités. Et ces cavités, ce n'est rien d'autre que les réactions de décomposition en produits de densité, je dirais, supérieure à la matrice. Ce qui fait qu'en ce cas, vous avez une restriction en volume et vous avez ouverture d'une porosité. Donc voilà, si vous voulez, là, je dirais l'exemple concret de ces réactivités. Alors ensuite, eh bien, dans ce cas, eh bien, on va voir que ces réactions, eh bien, elles vont bien sûr progresser en temps. Si après un jour, vous apercevez là aussi la progression de cette réaction de dégradation comme indiqué par ce spectre d'impédance. Alors pour combattre tout cela, même qu'on utilise des halogénures, eh bien, on va utiliser des méthodes d'enrobage. Et vous avez ici des méthodes d'enrobage où, dans ce cas, eh bien, il y a la possibilité de mettre du niobiate lithium et on reviendra plus tard sur ces problèmes. Mais grâce à cela, eh bien, on peut faire cycler ce matériau, ce spinel, à 4,8 volts en choisissant le bon électrolyte à l'halogénure avec de plus eh bien, un enrobage. Et vous avez effectivement les courbes électrochimiques associées et montrant ici la différence entre ces différents matériaux. Vous voyez effectivement que le composé avec, je dirais, le lithium niobate plus, dans ce cas, le spinel, eh bien, présente la meilleure tenue en capacité. Donc voilà, si vous voulez, le problème du carbone dans ces électrolyses. D'où les messages qu'il faut retenir, eh bien, je dirais, ils sont au nombre de 3. Vous avez ce graphe résume, je dirais, toutes les difficultés associées à l'utilisation du carbone. Tout d'abord, rappelez-vous, j'ai mentionné qu'il y avait une pente supplémentaire. Cette pente, eh bien, va vous dire directement la perte ou la réactivité de cette interface et se mesure, bien sûr, en capacité. Vous avez également, dans ce cas, dû au fait qu'on a des réactions de dégradation, une surtension croissante, qu'on voit très bien ici par ce surpotentiel, indiqué par la courbe rouge. Et enfin, bien sûr, vous avez une perte de capacité de ces systèmes. D'où, il est clair que finalement, eh bien, le carbone eh bien, facilite certainement les réactions électrochimiques, mais il ne pourra être utilisé que lorsque les électrolytes seront relativement stables à haut potentiel. Okay. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a parlé du carbone, et maintenant, dans cette composite, il y a le carbone, mais il y a le matériau d'électrode actif. Et quel va être le rôle et la conductivité de ce matériau d'électrode actif, c'est-à-dire, dans ce cas, ce NMC. Et c'est ce qu'on va voir directement dans le futur. Alors, pour mesurer les conductivités électriques des composites lors de leur cyclage, eh bien, cela n'est pas du tout facile dans le cas des batteries tout solides. C'est la raison qu'il a fallu développer des techniques qui nous permettent directement de faire ces mesures. Et ces techniques ont été développées dans le groupe au laboratoire. Alors ici, ce que vous regardez, c'est tout simplement des mesures de conductivité électrique dans laquelle l'astuce a été tout simplement d'insérer une mèche d'aluminium entre l'électrode active et l'électrolyte. Et par cela, eh bien, en utilisant, je dirais, deux types de voies, une voie qui va contrôler finalement l'aspect galvanostatique, c'est-à-dire le cyclage de votre accumulateur, et ensuite une autre voie qui va directement mesurer la conductivité et permettre de déterminer ces différentes valeurs en fonction d'abord du taux de nickel dans les différents composés et ensuite en fonction du retrait de lithium. Alors pour cela, eh bien, moi je vais vous présenter les résultats qui ont été obtenus dans le cas eh bien, de matériaux, je dirais, modèles. Le matériau modèle, pour démontrer la validité de ces mesures, a été l'oxyde de cobalt et l'ICO2, qui est connu depuis des décennies, de présenter une transition non-métal-métal lorsqu'on va retirer le lithium. Et cette transition non-métal-métal avait été caractérisée par des mesures ex situ, et grâce à ces mesures in situ, eh bien on peut maintenant, comme vous le voyez ici, où je trace la conductivité en fonction du taux de lithium dans ces composés, eh bien on montre finalement que cette transition va engendrer des changements considérables de la conductivité électrique d'un facteur 10 puissance 5 en retirant seulement 0,05 lithium. Et ça, bien sûr, c'est relativement important de connaître ces valeurs lorsque vous allez assembler des accumulateurs. Et ensuite, bien sûr, on ne va jamais revenir dans cette transition et on va rester dans le comportement métallique de ces matériaux. Et ces mesures sont, je dirais, très reproductibles, comme vous le voyez ici, où là, vous indiquez, je dirais, 6 différentes cellules. Et pour s'affranchir que tout cela était bien correct, eh bien, des mesures, je dirais, ex situ, sur des pastilles fabriquées différemment, ont été mesurées et sont en accord avec ces valeurs trouvées de façon in situ. Mais ayant cela, bien on a maintenant un outil pour suivre et prospecter les variations électroniques à l'intérieur de ces matériaux. Et cela peut être fait dans différentes configurations et différents types de matériaux. Et bien sûr, dans les oxydes lamellaires, vous avez des différenciations en la teneur en nickel. Et plus on va augmenter la teneur en nickel, je vous montrerai pourquoi, plus on va augmenter la conductivité électrique. Et là, vous voyez, sur ce graphe, on voit très bien que lorsqu'on va augmenter la teneur en nickel, eh bien, qu'on va du 1-1-1, 6-2-2, 8-1-1, eh bien, la conductivité électrique va augmenter. Notamment, vous voyez ici qu'il y a une différence entre le matériau par lui-même et la composite. Et une fois de plus, la composite, dans ce cas, dû au rôle de, tout simplement, du conducteur ionique lithium 6 PS5 L, SL, va présenter une plus basse conductivité électrique, tout simplement, une fois de plus, dû au fait de dispersion et la perte de percolation au sein de ce composite, ou la perte de percolation partielle. Et enfin, tout cela, on peut se résumer par ce simple graphe, où effectivement, il faut que vous sachiez très bien que dans les NMC, lorsqu'on va tout simplement augmenter la tenue en nickel, eh bien, on va tout simplement avoir beaucoup plus de nickel qui va transitionner de l'état nickel plus 2 à nickel plus 3. En bas, cela, tout simplement, va donner un grand nombre d'électrons qui vont augmenter la densité de porteurs et de trous, et tout cela va contribuer à une meilleure conductivité électrique du matériau. D'où, de nouveau, le message, c'est que dans ce cas, lorsqu'on augmente le taux en nickel, on va avoir des matériaux qui seront de meilleurs conducteurs électroniques. Alors, on peut faire, je dirais, ces mesures eh bien, également sur tous les différents matériaux, NMC, 1-1-1, 6-2-2, et ainsi de suite, et c'est ce que vous obtenez, dans lequel vous voyez ici eh bien, les variations de conductivité électrique lors du changement de nickel, et vous retrouvez bien, très bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que lorsque vous mettez plus de nickel, vous voyez ici sur cet axe, eh bien, je vais augmenter directement la conductivité électrique, et vous voyez également la variation en fonction du taux lithium. Et là, eh bien, aux alentours de 0,5-0,6, vous voyez un changement de pente de cette conductivité électrique qui est associé, du moins on pense, à tout simplement le changement de structure, de la structure H2-H3 dans ces composés lamellaires. Et tout cela eh bien, peut, une fois de plus, être associé, vous voyez, ce changement de pente arrive exactement à la composition à laquelle eh bien, j'ai un changement de volume. D'où la question qu'on peut se poser, c'est finalement, quelle est la corrélation entre la variation de la conductivité électrique et le volume structural des matériaux. Alors la conductivité électrique est certes un élément important, mais également, ce qui est important, c'est la conductivité ionique. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut maintenant déterminer, grâce à cette technique, la conductivité électrique et la conductivité ionique. Bien, ça aussi, c'est des mesures qui sont en train de se développer, ou grâce à des astuces, au cœur, je dirais même, de l'accumulateur, grâce à une alternance astucieuse des différents composés, on peut maintenant découpler dans ces composés la variation électronique et la variation ionique de façon simultanée et bien sûr avoir des informations précieuses sur les propriétés de transport électrons et ions à l'intérieur de ces substances. D'où, à ce jour, on peut directement suivre la croissance des interfaces et l'apparition d'effets chimiomécaniques où là, on pense que c'est vraiment dû au changement de volume du matériau et voir exactement ce qui se passe. Alors la question, c'est finalement, est-ce qu'on peut suivre cette variation de pression chimiomécanique de façon différente? Et là, je vais utiliser, ou résumer peut-être, le premier cours qui vous a été donné, le premier séminaire par Christelle Laberti, où elle a montré les deux façons de suivre l'évolution de la pression à l'intérieur de ces accumulateurs, soit en émettant des gauges de pression, comme indiqué ici, ou alors par des fibres optiques. Et bien, grâce à cela, on peut suivre, dans un composé, lorsque vous allez retirer ou mettre du lithium, mesurer ces valeurs de pression. Vous avez ici, dans le cas du composé lithium CO2, dans lequel, dans ce cas, à l'encontre de votre composé, lorsque vous retirez le lithium, eh bien, vous avez une augmentation, dans ce cas, du volume, d'où une augmentation de pression. Par contre, lorsque vous regardez les autres composés, eh bien, dans ce cas, vous voyez que lorsque je vais retirer le lithium, je vais avoir une diminution du volume, et ça de façon réversible. Et là, bien, la façon d'avoir des matériaux dans lesquels, finalement, je n'ai pas de variation de volume, je veux dire, de façon fictuelle, avec une contrainte zéro, bien, consiste à mélanger, finalement, un matériau qui a une expansion positive, avec un matériau qui a une expansion négative, et le tout va se moyenniser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de recherches sur des matériaux qui ont tout simplement, qui font de l'interpellation avec des zéro contraintes au niveau du volume, c'est-à-dire lithium 4i5O12 ou d'autres phases du type vanadite, niobite, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut, dans ce cas, bien limiter ces effets de chimio-mécanique. Enfin, un autre point sur lequel on peut regarder comment limiter ces effets est d'utiliser des pressions, je dirais, exacerbées. Et là, c'est des manipes relativement intéressantes qui montrent qu'on peut, dans ce cas, eh bien, compacter et utiliser des pressions relativement gigantesques, puisqu'on peut aller, dans ce qu'on voit ici, jusqu'à 1500 mégapascales, c'est-à-dire des pressions de 15,3 tonnes par centimètre carré. Et lorsque on obtient de telles pressions, eh bien, on va, dans ce cas, obtenir une densité relativement forte, on va éliminer la porosité à l'intérieur de ces pastilles et avoir de meilleurs contacts. Et effectivement, grâce à de telles pressions, alors bien sûr, d'un point de vue pratique, il n'y a aucun intérêt, mais on peut, dans ce cas, montrer que finalement, on peut avoir, dans ce cas, de très bonnes tenues en capacité avec ces pastilles qui ont quand même été pastillées à des pressions relativement gigantesques, mais qui ne sont cyclées qu'à 90 mégapascales. Vous voyez ici le comportement qui est relativement plat en tenue en capacité, avec, là aussi, eh bien, des régimes qui sont relativement corrects, 0,1C, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, l'avantage de cette. Alors enfin, le dernier point qui peut être important pour contrôler finalement cette densité des matériaux, c'est de jouer avec la taille des particules. Et en effet, lorsqu'on a des fractures, si on change la taille des particules, si on va vers des particules nanométriques, eh bien on va relâcher les contraintes à l'intérieur et aller vers des matériaux qui seront beaucoup plus résistants à les problèmes chimio-mécaniques. Et ça, c'est des manips qui ont été faits par des méthodes de préparation de poudre NMC, sphérique, on y reviendra par la suite, avec différentes tailles. Et on peut montrer dans ce cas qu'il y a une différence, je dirais, considérable au niveau des propriétés électrochimiques. Alors là aussi, ce qui est important, c'est que je fais une comparaison entre l'électrolyte liquide. Et vous allez voir, dans l'électrolyte liquide, cette taille des particules n'est pas tellement critique, alors qu'elle va devenir critique dans le cas du tout solide. Et vous voyez ici, effectivement, au fur et à mesure que je diminue la taille des particules, et bien dans ce cas, je vais avoir une meilleure capacité. Alors, meilleure capacité, pourquoi? Une fois de plus, il n'y a pas grand mystère, meilleure compaction et meilleur contact entre, je dirais, les différents électrodes. D'où par conséquent, et bien, je souligne ici l'importance à la morphologie des particules sur ou pour avoir de bonnes performances électrochimiques de ces matériaux. Et cela, et bien, va m'amener à une question qui est, je dirais, aujourd'hui des plus critiques dans le domaine des matériaux d'électrons, que ce soit pour les matériaux lithium-ion liquides ou tout solides, c'est tout simplement cette fameuse distinction entre les matériaux polycristallins et les matériaux monolithiques. Alors, un matériau polycristallin, eh bien, ce n'est rien d'autre que les matériaux qui sont préparés par des procédés de coprécipitation, qui sont des matériaux avec des poudres sphériques pour une meilleure compacité, et c'est ce qu'on trouvait beaucoup dans toutes les batteries lithium-ion. Et ce n'est rien d'autre que des particules sphériques secondaires étant une agglomération de grains primaires. C'est-à-dire que c'est des particules qui vont être agglomérées avec des joints de grains. Et ça va être très important. Par contre, ensuite, vous avez les particules monolithes. Et là, ces matériaux, eh bien, ce ne sont pas de vrais monocristaux individuels, mais des larges grains monolithiques qui sont plus ou moins agglomérés. Et cela a des importances capitales. En effet, tout récemment, depuis ces quelques dernières années, eh bien, même dans la technologie lithium-ion, on va utiliser directement ces matériaux, je dirais, monolithes. Et grâce à cela, eh bien, il y a des performances, je dirais, fortement améliorées en termes de tenue en cyclage et également en termes de durabilité. Ici, vous avez une citation de Jeff Dan qui a démontré que de tels matériaux pouvait avoir dépassé des durées de vie de plus de 50 ans avec également des tenues en cyclage relativement impressionnantes. D'où la question est, que va-t-il en être du tout solide et le pourquoi et le comment? Et c'est là que je dirais tout va devenir assez intéressant et comprendre réellement le rôle de ces matériaux. Alors si je prends le tout solide, eh bien, je prends le cas d'un exemple de deux matériaux qu'on va utiliser pour faire des composites, un matériau polycristallin et un matériau, dans ce cas, monolithique. Tout d'abord, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'après 40 cycles, vous regardez tout simplement la fracture intérieure de ces matériaux. Eh bien, dans le cas des matériaux polycristallins, puisque des agglomérations, eh bien, il va y avoir tout simplement des fissures intragranulaires. Et ça, ça va se développer très facilement lors du cyclage. Par contre, dans un matériau monolithe, eh bien, le nombre de fissures sera relativement limité. D'où, fissures relativement limitées, vous ne perdrez pas les contacts, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle eh bien, ces matériaux vont se comporter de meilleure façon en tenue en cyclage. Et cela est démontré ici par ces deux graphes, dans lesquels on trace la fraction de volume cumulé de particules imbriquées dans ces phénomènes de transport. Et ici, je trace tout simplement la distance, le chemin de diffusion du lithium, c'est-à-dire le voyage du lithium, si je peux dire. Et vous voyez qu'en ce cas, après 40 cycles, eh bien, j'aperçois que dans ce cas, il est multiplié par 3 par rapport au matériau monolithe ici. Ça veut dire que j'ai beaucoup plus de fracturation dans le cas des matériaux polycristallins que les matériaux cristallins. Cela, eh bien, on peut encore le représenter, je dirais, de façon encore plus imagée sur cette diapositive qui, j'espère, va tout éclaircir. Vous avez ici ces matériaux polycristallins, comme je vous ai décrit, et les matériaux cristallins. Vous voyez que maintenant, le chemin de diffusion, eh bien, le temps de diffusion, va être certainement plus long dans le cas du matériau monolithique. Et à effet, ce que je trace ici, c'est la diffusion apparente du lithium dans ces différents matériaux. En bleu, vous avez ici le matériau cristallin et le matériau polycristallin. Et vous voyez qu'effectivement, dans le cas eh bien, du matériau cristallin, j'ai une diffusion apparente qui est moindre. Pour la bonne et simple raison, c'est que mon lithium, eh bien, il a un temps de voyage plus important. Par contre, dans ce cas, il est plus faible. Par contre, regardez, lorsque je charge, eh bien, je m'aperçois qu'en ce cas, j'ai une augmentation de la diffusion apparente du lithium qui est importante, et ensuite, lorsque je décharge, eh bien, je reste avec une diffusion apparente. Alors cela, je dirais, c'est presque virtuel, pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque vous allez directement oxyder ce matériau, vous allez faire finalement du broyage électrochimique. Vous allez réduire la taille des particules, d'où automatiquement, vous allez changer la surface de vos particules. Et c'est une surface apparente que l'on ne prend pas en compte lorsqu'on fait ces calculs. Alors ensuite, eh bien, si maintenant je regarde au niveau de l'électrolyte solide, eh bien, au niveau de l'électrolyte solide, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ça va tout changer. C'est-à-dire, dans le cas de l'électrolyte liquide, je peux avoir des capacités, ou du moins des puissances supérieures avec les matériaux qui vont être des matériaux polycristallins que cristallins. Ici, la situation est totalement différente, puisque dans le cas du matériau monolithique, eh bien, je n'ai plus très peu de fractures. Et par contre, maintenant, si j'ai des fractures dans le cas eh bien, du matériau que j'appelle le matériau polycristallin, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais avoir réaction d'interface et je perds les contacts et j'ai une augmentation de la porosité. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, la diffusion apparente sera moindre et la diffusion réelle. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui va contrôler finalement les performances en puissance de ces matériaux. Alors on peut continuer. Et pour vous montrer réellement l'importance de cela, eh bien, je vais vous montrer quelques manips qui ont été faites maintenant sur une électrode positive en milieu liquide. Alors ce qu'ont fait les chercheurs ici, ce n'est pas compliqué. Ils ont pris leur matériau d'électrode et ils ont oxydé jusqu'à différents potentiels. Ensuite, ils ont tout simplement récupéré la poudre et ils ont fait des mesures de surface spécifiques pour savoir quel était finalement le volume de ces poudres. Et à partir de cela, eh bien, ils en ont déduit effectivement la variation du volume en mètre carré par gramme. Et vous voyez ici que dans le cas des matériaux polycristallins, au fur et à mesure que j'augmente le potentiel, vous voyez que j'augmente drastiquement la surface POT, ça veut dire que j'augmente considérablement, et eh bien, dans ce cas, le broyage électrochimique, c'est-à-dire je décrois la grosseur ou la taille de mes particules. Par contre, dans le cas du matériau monolithique, vous voyez que j'aille jusqu'à 4,2 volts, eh bien, je n'ai pas de changement. Et ça, c'est de nouveau une fois de plus très important, car aujourd'hui, on veut des batteries avec des capacités plus importantes. Pour avoir ces capacités plus importantes, il va falloir sortir plus de nickel et aller à des potentiels plus hauts où on va avoir cette transition H2-H3. D'où c'est la raison pour laquelle toutes les nouvelles générations de batteries à ion lithium vont utiliser tout simplement ces particules monolithes. Donc voilà, si vous voulez, l'importance de tout cela. Alors ensuite, on peut encore élaborer sur les différences qu'on peut avoir. Et ici, je vais vous montrer encore, une fois de plus, des expériences qui ont été faites au niveau du tout solide, dans lesquelles on va comparer de nouveau le même matériau, avec le même électrolyte, dans lequel on va utiliser du polycristallin, et dans ce cas, on va utiliser du monolithe. Et vous voyez ici, la chute en capacité, eh bien, je peux l'associer, dans ce cas, eh bien, à la masse perdue par la perte de contact avec l'électrolyte et le NMC dû à ce broyage, et ensuite avec, comme vous voyez ici, une augmentation de la diffusion du lithium ou du chemin de diffusion. Par contre, si je vais dans le cas du monolithe, vous apercevez que ces valeurs sont relativement moindres, et ce, une fois de plus, vous montre, si je peux dire, l'avantage de pouvoir travailler avec ces particules monolithes. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur cette morphologie, qui est certainement le point le plus important au niveau du matériau d'électrode, car la fissuration intergranulaire va être essentielle. Okay. D'où, vous ayant montré ces aspects, je dirais, de morphologie, eh bien, on va maintenant continuer dans un aspect qui est aussi presque important, qui est l'aspect des interfaces. Alors, je vous ai déjà raconté à plusieurs reprises qu'il y avait des réactions de dégradation à ces interfaces, et aujourd'hui, on va voir comment, finalement, on va pouvoir tenter, ou du moins y remédier. Alors, la raison est relativement simple, c'est que vous avez ici, tout simplement, un oxyde, et vous voulez combiner un sulfure avec un oxyde. Donc, automatiquement, il va y avoir des réactivités, des incompatibilités chimiques. Bon, le lithium va vouloir être attiré par le soufre, et ainsi de suite. Donc, vous allez créer, dans ce cas, eh bien, des zones de déplétion, c'est-à-dire des interfaces isolantes, comme vous pouvez voir ici. Okay. Et ça va être, je dirais, négatif, une fois de plus, pour le fonctionnement de ces batteries. Alors, bien sûr, pour remédier à ça, eh bien, il va falloir tout simplement mettre des couches tampons. C'est-à-dire, ces couches tampons vont permettre d'abord de bloquer la réactivité électrochimique sans en affecter, si possible, le transport. Et bien sûr, la nature de ces couches tampons doit être réfléchie sur des bases de chimie du solide avec des concepts d'acido-basicité et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, je dirais qu'il y a des recherches considérables sur les différents types d'enrobage, et vous regardez la littérature, je dirais que vous pouvez trouver tous les types d'enrobage que vous voulez, tous les oxydes y passent, et ainsi de suite. Généralement, un travail avisé ou réfléchi demande de connaître finalement quelles sont les propriétés acido-basiques de ces matériaux. Et généralement, on aime très bien, dans ce cas, en raison du nickel sur le NMC, d'avoir, dans ce cas, des oxydes acides comme lithium silicate, vous les regardez tous, c'est tous des oxydes acides. Et on veut également connaître quel va être l'état de surface de ces matériaux, c'est-à-dire quels vont être leurs potentiels états. Et là aussi, à partir de cela, eh bien, on pourra arriver à choisir le bon matériau pour l'enrobage par rapport à l'électrode qu'on utilise. Alors ça, c'est, vous voulez, les matériaux qui existent. Alors si maintenant on regarde les méthodes pour directement développer ou pour finalement effectuer cet enrobage, bien là aussi, elles sont très nombreuses. Vous avez des méthodes en solution avec toute la chimie du solide, les sol-gel, les spray coating. Vous avez ensuite toutes les méthodes physiques comme la PLD, comme l'atomic layer deposition, le spattering ou le broyage mécanique. Et tout cela, c'est des techniques qu'on voit directement, qui sont développées dans la littérature pour essayer de fabriquer ces enrobages de particules. Alors bien sûr, dans la littérature, vous allez trouver des centaines de papiers avec chacun vantant le mérite d'un tel ou un tel matériau. Alors je ne vais pas passer tous ces papiers en revue, mais je vais tout simplement vous donner un aperçu de ce qui se fait et de ceux qui semblent être les plus crédibles. Alors, un de ces papiers, par exemple, je vais montrer ici un papier qui a lieu ou qui s'est développé grâce à des méthodes sol-gel, où dans ce cas, eh bien, on va tout simplement regarder quel va être le dépôt de lithium niobate, dans ce cas niobate, excusez-moi, sur directement des particules de NMC. D'où les méthodes vont être préparées en sol, un gel, et ensuite on va faire un enrobage pour obtenir ces particules cœur-couronne, si on peut dire, avec bien sûr des épaisseurs qui sont, si elles sont de l'ordre du quelques nanomètres, c'est mieux, car le transport sera mieux. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, effectivement, vous voyez que si on prend des particules non enrobées avec des particules enrobées, eh bien, on peut, pour les mêmes vitesses de décharge, eh bien, obtenir, dans ce cas, une capacité plus importante avec les particules qui sont enrobées. Ensuite, on peut faire ça avec d'autres types d'approches. Approches, je dirais, d'exsolution ou de ségrégation, c'est-à-dire qu'en ce cas, il suffit de mener un matériau à trop haute température, avec, dans ce cas, il va y avoir, je dirais, une extraction à haute température du métal, et dans ce cas, on va former tout simplement de l'alumine Al2O3. Et cet alumine va pouvoir être utilisé comme enrobage de ce même matériau, qui est tout simplement lithium aluminium cobalt oxide, qu'on appelle dans notre jargon NCA. Autre exemple, dans lequel, dans ce cas, on va regarder un dépôt de lithium 4i5O12 via un lead fluidisé, c'est-à-dire que dans ce compte-là, on va prendre tout simplement des méthodes de solution et on va tenir les particules en lévitation au fur et à mesure qu'on va tout simplement jeter un jet d'électrolyte ou un jet de solution pour enrober de façon confocale ces particules. Et là aussi, on obtient, comme vous pouvez voir, une amélioration entre les particules non cotées et les particules cotées. Mais une fois de plus, vous avez des centaines de papiers sur les enrobages et chaque fois, bien sûr, le matériau coté va montrer de meilleures performances. D'autres types de revêtements, des revêtements de type carbone, type diamant, qui se font comme indiqué ici. Vous avez des revêtements de type Li2, CdRO2, voire des revêtements au niveau de lithium carbonate. Et là aussi, je vais tout simplement profiter pour faire un clin d'œil, pour montrer finalement que ce revêtement ou cet enrobage va avoir des conséquences différentes si vous êtes en tout solide ou en liquide. Et notamment, si vous êtes en particules monolithes ou polycristallines. En effet, si vous faites du dépôt ou d'un enrobage, eh bien, si vous faites un enrobage sur du monolithe, eh bien, lors du cyclage, votre enrobage va rester intact. Si maintenant vous faites sur du polycristallin, s'il y a, comme je vous l'ai mentionné, cette fissuration intergrain, vous allez perdre la cohésion entre les différents grains et automatiquement, votre enrobage ne va pas être, je dirais, idéal. Et si vous avez un électrolyte liquide, eh bien, l'électrolyte liquide va pouvoir s'infiltrer dans votre matériau d'électrode et avoir finalement des surfaces fraîches dans lesquelles il va entraîner des compositions de dégradation, il va entraîner des DSEI et des chutes de capacité. Tout ça aussi, c'est un point relativement important à prendre en considération. Enfin, d'autres techniques qui sont utilisées, eh bien, c'est dans ce cas où on prend des particules d'NMC classiques et sur lesquelles on va tout simplement déposer des borates lithium et vous voyez qu'en ce cas, si je prends des matériaux dans lesquels je n'ai aucun matériau enrobé, dans ce cas, je vais avoir des surfaces qui vont être contaminées par les réactions de dégradation. Si maintenant, je fais un traitement à haute température, je vais obtenir une protection grâce à un borate lithium qui va, une fois de plus, limiter les réactions secondaires et les réactions de dégradation. Et c'est ce qu'on voit une fois de plus sur cet transparent, dans lequel, toujours pareil, une amélioration entre le matériau qui va être un matériau non coté et le matériau coté. Enfin, deux autres exemples, dans lesquels, celui-là, on va regarder tout simplement, là aussi, c'est des papiers qui ont fait pas mal de bruit lorsqu'ils sont sortis, dans lesquels l'aspect bénéfique, c'est d'avoir un carbonate à la surface, finalement, de NMC. Alors là, les traitements sont des traitements relativement particuliers, et là, on regarde deux particules dans lesquelles il y a eu un dépôt de lithium carbonate, et ensuite, ce dépôt de lithium carbonate a été couplé à un dépôt de lithium niobate. D'où tout cela pour voir l'effet, je dirais, bénéfique. On peut regarder sur ces couches classiques de cyclage, potentiel en fonction de la capacité, mais on peut également regarder une fois de plus sur les mesures d'impédance. Et là, vous voyez tout simplement les mesures d'impédance avec, dans le cas du matériau non coté, le matériau coté avec, dans ce cas, lithium de CO3 et le matériau qui est enrobé avec lithium de CO3, lithium niobate. Et vous voyez très bien qu'en ce cas, vous voyez tout simplement la résistance interface électrolyte NMC, qui va décroître considérablement au fur et à mesure que je vais tout simplement appliquer mon enrobage, ce qui est, je dirais, une méthode directe de voir ça. Et enfin, le dernier exemple qui montre finalement la possibilité de faire, dans ce cas, du dépôt confocal, eh bien, c'est tout simplement des particules d'un fameux matériau spinel à symbole que je vous ai mentionné auparavant, où on va, dans ce cas, utiliser le dépôt par ablation laser pour déposer ce film lithium 3PO4, film d'ailleurs que l'on peut déposer de façon, je dirais, très élégante, avec des mesures d'atomic layer deposition, c'est-à-dire des mesures de couche, de déposition en couche. Et grâce à cela, on peut une fois de plus, dans ce cas, eh bien, augmenter toutes ces performances, comme l'on voit ici, entre les matériaux qui sont des matériaux non enrobés et les matériaux enrobés. Donc voilà, si vous voulez, tout, je dirais, ce domaine de recherche qui est en train de se développer pour arriver à maîtriser, contrôler ces réactions de dégradation. Alors, maintenant, je vous montrerai finalement des approches qui sont peut-être plus originales et moins travaillées, où on peut également trouver des systèmes ou des moyens ou des astuces pour contourner ces problèmes. Alors, tout cela, eh bien, on peut l'indiquer ici. C'est tout simplement voir si on ne peut pas changer les oxydes et passer à des matériaux, des sulfures, dont les potentiels redox sont beaucoup plus faibles. Ça veut dire qu'en ce cas, si mes potentiels redox sont beaucoup plus faibles, je vais retomber dans le domaine de la thermodynamique stabilité de mes électrolytes. Et voyez ici, si je prends maintenant le cas bien, des oxydes, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on est complètement en dehors du domaine de stabilité de, bien sûr ici, de l'argérodite, voire même des halogénures. Maintenant, si je vais au sulfure, vous voyez que les sulfures, eh bien, maintenant, le domaine de stabilité maintenant, eh bien, il tombe parfaitement dans le domaine du couple redox des sulfures. Ça veut dire que là, eh bien, je vais tout simplement minimiser mes réactions secondaires et je vais pouvoir m'en affranchir. Alors ces sulfures, ils sont intéressants parce qu'il y a d'autres avantages. D'abord, comme je vous mentionnais, le couple redox est beaucoup plus faible et beaucoup plus adapté aux électrolytes que l'on a aujourd'hui. Ce sont des composés plus métalliques en raison d'une meilleure covalence. Le soufre étant bien sûr moins électronégatif que l'oxygène. Et ils ont une meilleure conductivité ionique due à la moindre polarisabilité du soufre par rapport à l'oxygène. Donc voilà ces avantages, et également, ce qui est très important, ils ont une meilleure déformabilité, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir permettre de fabriquer des électrodes qui seront beaucoup plus, je dirais, compactes, avec des contacts relativement intéressants. Alors si on regarde finalement les performances, eh bien si on compare, vous avez ici des courbes, certainement pas une des meilleures courbes qu'on peut obtenir avec les oxydes là-dessus, hein, mais c'est des matériaux dans ce cas qui étaient cotés avec lithium niobate, avec du LPS comme électrolyte. Et si maintenant je compare avec un matériau, un matériau comme indiqué ici, qui est en ce cas la phase lithium titane FES, une phase qui a été développée au laboratoire, c'est-à-dire un composé lamellaire au soufre riche en lithium, eh bien vous apercevez qu'en ce cas, eh bien je peux obtenir des capacités relativement conséquentes et même nettement plus importantes qu'avec les NMC, et on verra par la suite ce que ça peut donner. Alors finalement, cela, eh bien, ça peut offrir la possibilité de cycler des composites sans carbone et sans arrobage. Sans carbone, pour la bonne et simple raison, c'est que le matériau par lui-même bien, apporte sa conductivité électrique, et sans arrobage, car ce matériau eh bien, a ou est en contact avec un sulfure. C'est-à-dire que j'ai un matériau d'électrode qui est un matériau sulfuré et mes électrolytes contiennent du soufre. D'où il y a effectivement pas mal d'opportunités, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à cela, eh bien, cycler des accumulateurs vis-à-vis du lithium, puisqu'en ce cas, eh bien, mes réactions de dégradation sont moindres, et de plus, le matériau montre une très grande déformabilité, d'où par conséquent, je peux abaisser les pressions et avoir ce cyclage possible par rapport au lithium, et je peux également, dans ce cas, faire des électrodes mixtes, dans lesquelles je vais mélanger mon composé lamellaire soufré avec, dans ce cas, du NMC, et on peut là aussi obtenir eh bien, des performances relativement intéressantes et qui peuvent être utilisées par la suite, on le verra certainement la prochaine fois, pour faire cycler des batteries lithium et des batteries au silicium. Donc voilà la question, ce qu'on peut faire. Alors la question qu'on peut se demander maintenant, c'est que si j'utilise ces matériaux, qui ont une bonne conductivité ionique et électrique, eh bien, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre dans mon électrode positive ce conducteur ionique? Et là, eh bien, c'est la question qu'on va regarder et voir comment on peut construire de façon simple une batterie. Là, ce que vous regardez, c'est la composite de cathode conventionnelle, dans laquelle vous avez, dans ce cas, eh bien, votre matériau d'électrode actif qui est en noir, vous avez ici l'électrolyte mais en blanc, et vous avez dans ce cas le carbone. Bon. Le problème, c'est que le carbone et cet électrolyte solide eh bien, sont des matières qui sont mortes électrochimiquement, c'est-à-dire qu'elles n'apportent pas de capacité, d'où par conséquent c'est des pénalités pour la capacité. De plus, eh bien, ça va créer des interfaces dans lesquelles il va falloir tout simplement des pressions pour s'assurer qu'elles aient de très bons contacts. D'où la question est finalement, est-ce qu'on peut, dans ce cas, eh bien, dessiner ou concevoir des électrodes positives dans lesquelles finalement il n'y a pas de conducteur ionique et il n'y a pas de carbone. Okay. Et cela, eh bien, bien sûr, ça aurait des avantages, puisqu'on aurait eh bien, 100% de matériaux actifs. Il y aurait également des changements de volume homogènes, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de perte de contact, ainsi de suite. Et la question qui se pose, bien sûr, si on veut faire cela, eh bien, comment choisir ce matériau d'électrode ? Donc, c'est ce que je vais vous montrer par la suite, quelles sont les caractéristiques que l'on doit avoir pour trouver un matériau d'électrode qui puisse répondre à cette demande d'un point de vue application. Eh bien, tout d'abord, il vous faut un matériau d'électrode qui va être un conducteur ionique et un conducteur électronique. Bon, ça, on l'a déjà acquis, puisqu'on a dit que les sulfures le pouvaient. Ensuite, il vous faut tout simplement un matériau qui a une haute stabilité vis-à-vis des électrolytes, puisque j'ai abaissé mon potentiel redox dans le cas des sulfures. Eh bien, j'ai cette propriété aussi. Il faut également un matériau qui a une très grande déformabilité ou une faible dureté. Et là aussi, les sulfures m'apportent directement cet avantage. D'où par conséquent, eh bien, on peut, dans ce cas, ou on doit pouvoir, utiliser cela pour directement eh bien, créer, je dirais, des électrodes capables de travailler sans conducteur ionique et sans carbone. Alors bien sûr, dans ce cas, quels sont ces matériaux ? Eh bien, automatiquement, vous avez compris que ces matériaux seront à base de soufre. Et ils sont à base de soufre, lesquels ? Eh bien, dans ce cas, on va tout simplement utiliser des matériaux relativement classiques, qui sont bien connus dans la chimie du lithium, qui sont les phases lamellaires TiS2, ou les phases, je dirais, lithium-X TiS2, qui sont finalement des polymorphes, ou des spinels, dans lesquels on va tout simplement retirer le cuivre pour obtenir des spinels TiS4 qui ont également les propriétés de TiS2. D'où, on ne va pas regarder tous ces matériaux, mais on va simplement en regarder un, qui est de la phase LX-TiS2 ou LTS. Et effectivement, c'est un matériau intéressant, car si vous prenez un tel matériau, et si vous le faites cycler dans une batterie tout solide, comme indiqué ici, avec cette fois, regardez, un conducteur ionique de façon classique, vous obtenez une très belle courbe électrochimique. Okay. Maintenant, si je veux faire appliquer mon concept, c'est-à-dire ne pas utiliser de conducteur ionique, eh bien, le premier essai est un désastre. Vous apercevez que je n'ai plus aucune capacité. Par contre, si maintenant je prends ce matériau et je le broie manuellement ou mécaniquement, eh bien, vous pouvez ici, je restitue toute ma capacité. Nous savons qu'en ce cas, eh bien, je peux utiliser ce matériau broyé directement comme électrode, sans additifs de conducteur ionique et sans carbone et sans enrobage. Et en effet, on peut dans ce cas eh bien, obtenir un tel matériau et essayer de voir même et de comprendre pourquoi un tel matériau fonctionne. Et pour comprendre cela, on fait des mesures de JITT et on regarde ce qui se passe entre le matériau, je dirais, idéal, pristine, et le matériau broyé. Et on regarde effectivement que si on regarde les conductivités, les coefficients de diffusion, eh bien, il y a un changement drastique des coefficients de diffusion entre le matériau pristine et le matériau broyé. Il y a un facteur de 100 au niveau de cette diffusion du lithium. Et cela provient du fait, tout simplement, que dans ce cas, eh bien, on passe d'une structure 2D à une structure 3D, c'est-à-dire qu'on a, dans ce cas, eh bien, des chemins de conduction, de diffusion pour lithium qui sont totalement différents, et on a, je dirais, une plus basse tortuosité qui permet d'obtenir des diffusions beaucoup plus rapides, ainsi de suite. Donc, par conséquent, eh bien, ce qui se passe, c'est que grâce à ce broyage, eh bien, on a, bien sûr, augmenté la diffusion apparente, parce qu'on ne va pas changer la conductivité intrinsèque du lithium de ce matériau, qui est bien défini, qui dépend de la structure, mais on va tout simplement, par ces méthodes de broyage, eh bien, tout simplement, modifier, comme vous pouvez voir ici, la diffusion apparente grâce à la tortuosité qui va être modifiée, et ensuite, bien sûr, tortuosité qui est modifiée, particules plus petites, déformabilité et densité plus grande. Eh bien, grâce à cela, eh bien, on peut, et ça c'est les travaux une fois de plus qui ont été faits au laboratoire récemment par Benjamin Ennecart, dans lequel on va dans ce cas eh bien, pouvoir, grâce à cette astuce, eh bien, cycler des batteries à relativement basse pression. Vous voyez ici, on peut cycler des batteries actuellement jusqu'à 0,1 mégapascal grâce à une telle électrode. Et tout ça, c'est des batteries tout solides. Il n'y a aucun ajout, je dirais, de liquide ionique ou de liquide et ainsi de suite. Et cela, eh bien, permet également d'obtenir des systèmes qui vont fonctionner à température ambiante et qui peuvent, comme vous pouvez le voir ici, utiliser maintenant du lithium métal comme électrode négatif. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec des modifications et en déviant complètement des oxydes qui sont fortement étudiés aujourd'hui et en regardant les sulfures. Alors enfin, on peut se demander, et je vais conclure là-dessus, quel est finalement ou quel va être l'avantage de ces systèmes. Bien, l'avantage de ces systèmes, bien sûr, on va les voir en termes de densité d'énergie. Et si je regarde en termes de densité d'énergie, voilà tout simplement ce qu'on peut réaliser avec du NMC. Alors NMC va vous donner bien sûr théoriquement une forte densité d'énergie, mais malheureusement, pour que ce NMC fonctionne, il faut le mélanger avec 30% d'électrolytes solides, c'est-à-dire avec 30% de matière inactive. Et c'est pour ça que finalement, si vous partez avec des valeurs de 500 watts par kilogramme ou à peu près, vous arrivez avec, dans ce cas, aux alentours de 374 watts par kilogramme. Okay. Maintenant, si je prends ces sulfures, vous voyez qu'en ce cas, je peux, grâce au broyage mécanique, obtenir des densités d'énergie de 366 watts par kilo, qui sont à peu près, je dirais, identiques. Alors, sachant bien que ces matériaux ont un potentiel plus faible que les oxydes, par contre, ils ont une capacité plus grande. D'où le produit, finalement, va vous donner une valeur relativement identique. D'où le message que je veux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a là aussi pas mal de recherches qui se font sur les sulfures, qui apparaissent comme des matériaux compétitifs avec les NMC pour les batteries tout solides. Bien sûr, il nécessite plus d'attention, car il va y avoir des problèmes là aussi de sécurité, et les problèmes de H2S qu'il va falloir prendre en considération, les problèmes de stabilité à l'humidité qu'il va falloir prendre en considération. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur tous ces matériaux d'électrode positive et comment on peut arriver aujourd'hui à maîtriser cette électrode positive en ayant soit des NMC, soit des sulfures, et surtout en utilisant des méthodes d'enrobage dans les cas les plus extrêmes. Voilà. Merci pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.